Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi. Sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis sur une même enseigne.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, un plaisir les amis de vous retrouver comme tous les dimanches, lundi et mardi dans Service Public en compagnie de Hakim Ben Moussa à la réalisation, Samir est à la technique, Tahar à la régie d'antenne et notre ami Najib au streaming. Un plaisir les amis de revenir un petit peu sur les sujets du quotidien. Aujourd'hui, nous allons revenir un petit peu sur le tourisme saharien. Comment préserver justement ce cadre agréable? Comment investir sans pour autant dénaturer cette nature formidable? Nos amis seront avec nous juste après la chanson pour débattre. Alors, soyez au rendez-vous jusqu'à 11h pour Service Public.
Sabkhaz it jidd in bawad
Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis justement d'être avec vous aujourd'hui dans Service public pour parler de ce tourisme saharien. C'est la période par excellence. Surtout qu'on est à un mois de Madame Dane et c'est tout le monde qui a envie un petit peu de profiter. Il faut dire qu'après il va y avoir un petit peu, enfin quelques vents de sable et tout, donc on va profiter à fond ce fin janvier et début février. Il est avec nous aujourd'hui, il a la double casquette, il a la casquette du président de l'association MN, l'association des consommateurs, et il a aussi la casquette de l'architecte. Monsieur Menoir, bonjour.
Et d'un amoureux de la nature et surtout de
Sahara. Oui. Voilà. Ça, c'est la troisième casquette.
Oui, bonjour. Bonjour à toi, Soleil Bouadba, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Chaîne 3, là où ils sont, en Algérie et ailleurs. Mm-hmm. Parce que là, je sais que j'ai des échos qu'on est...
On nous écoute partout.
La radio, oui, elle est bien écoutée, elle est bien appréciée de partout. Et surtout quand il s'agit d'un sujet pareil. On va parler un peu
d'Algérie. On va essayer de voyager ensemble.
On va parler de soleil, alors qu'il fait beau, il pleut. Ouais, c'est un
il fait très beau sur Alger.
Absolument.
Il y a du soleil un petit peu partout. Oui. Aussi.
Par contre, moi je dirais que, vous savez que le tourisme saharien devrait avoir une autre perception. Mm-hmm. C'est-à-dire même pendant le Ramadan.
Pourquoi pas. C'est ouvert.
Mais il suffit
on peut
juste
profiter à fond en
non,
plus.
Il suffit juste d'adapter les produits et les prestations touristiques par rapport à toutes les conjonctures. C'est-à-dire, même pendant le Ramadan, c'est aussi il n'y a pas mieux que le Sahara pour avoir plus de spiritualité,
pour se ressourcer,
plus de méditation, plus de repos, plus de temps aussi, aux bonnes actions, à la lecture, à la prière, etc. Donc, et je crois qu'on va devoir, les agences de tourisme, enfin, tous les professionnels doivent penser à ça du moment que, dans les années qui vont venir, Ramadan sera dans la meilleure période et la meilleure saison du tourisme saharien. Mm-hmm. Voilà, donc il y a du travail à faire. Donc nous avons quand même, alhamdoulilah, un grand pays. Si le tourisme balnéaire ne peut se faire que pendant les mois de juillet et août, mais le tourisme saharien peut se faire dans les 8 mois de l'année. Il suffit juste de bien investir, de bien communiquer, de faire le marketing qu'il faut et aussi d'avoir cette culture. Donc cette culture et savoir ce qu'on veut de ce tourisme. Est-ce que c'est un tourisme culturel? Est-ce que c'est un tourisme de découverte? Est-ce que c'est un tourisme de masse, entre guillemets, que j'aime pas trop? Donc même les professionnels n'aiment pas beaucoup. Et comment y aller? On y est. Bon, c'est vrai qu'on y est. Certains vont dire oui, on y est déjà. Mais est-ce que ce qui se fait actuellement réellement travaille pour le tourisme, travaille pour l'économie, travaille pour les sociétés locales, travaille pour l'artisanat, travaille pour la culture, travaille pour l'architecture? C'est des questions qu'on va devoir se poser. Et j'espère qu'il y aura des réactions d'experts pour nous éclairer sur ça. Voilà, donc ça c'est très important. Moi je dirais que, vu que dans les années à venir, on va avoir moins de ressources, en termes de pétrole, de gaz, etc., il va y avoir et l'agriculture et le tourisme. Donc on doit commencer à investir maintenant pour avoir des résultats en 2030 et après 2030. Ça c'est très important.
Et bien justement, comment investir? D'abord, sans pour autant dénaturer un petit peu cette nature.
D'abord, il faudrait aller chercher et connaître ce que voudrait le touriste étranger en Algérie et dans le Sahara algérien. Est-ce qu'il va venir pour se défouler? Est-ce qu'il va venir pour le soleil seulement? Pour le sable seulement? Vous savez, le soleil, le sable, les dunes, il pourrait les trouver ailleurs. Il y a peut-être d'autres pays qui ont plus de pratiques et d'expérience dans ce domaine. Mais donc c'est à travers les réponses à ces questions, on va peut-être, avec des experts, avec des chercheurs, avec des universitaires, aller vers la concrétisation de certains projets qui vont être uniques. Donc le touriste étranger surtout, moi je parle des touristes, même les touristes algériens, donc il va beaucoup plus chercher l'expérience que l'expérience et la découverte, que la détente, que le soleil, que les dunes de sable. Et l'expérience, c'est de trouver dans les différentes régions d'Algérie ce qu'il ne trouvera pas ailleurs. Même ce qu'il va trouver, par exemple, à Temimoun, il risquera pas de le trouver à Djennet.
À Rardaya ou à Djennet.
À Rardaya. Donc c'est surtout ça, c'est donner une diversification de l'offre d'une manière à ce que le touriste reste en Algérie et puis il reviendrait à chaque fois. C'est-à-dire, nous avons un pays normalement qui inciterait un touriste bien averti à venir en Algérie au moins une vingtaine de fois.
Par an ?
Non. Pendant chaque année, il va devoir venir
pour découvrir notre région.
Vous savez, donc, nous avons d'abord le patrimoine architectural qui est différent, c'est-à-dire d'un village à un autre.
Tout à fait.
Vous savez, quand on est à Bni Abbès, on a une architecture locale. À 300 km, on est à Temimoun. Il y a tout qui change. Il y a les couleurs, il y a le mode, il y a les ouvertures. Et puis aussi, on a notre art culinaire, donc, qui aussi change d'une région à l'autre. Notre couscous qui n'est pas différent, le couscous de Biyad, le couscous de Temimoun, le couscous de Tarit, de Bni Abbès, de Adrar, n'est pas le même. Donc, et puis tout ce qui est culturel, tout ce qui est chant, tout ce qui est, tout ce qui est travaux artisanaux, donc tout ça, il va falloir encourager d'abord les locaux à le faire eux-mêmes. Il va falloir les former, les appuyer, renforcer leurs capacités afin de relever ce grand défi.
Et bien justement, M. Manuel, ils sont nombreux à investir dans le Sud. Oui. On a eu l'occasion de rencontrer M. et Mme Messaï. Et justement, Farida Messaï, on a eu l'occasion de la rencontrer. Elle nous parle un petit peu justement de son investissement. Elle est tombée amoureuse de Temimoun.
Elle aussi.
Et elle y est depuis quelques années.
Ben, en réalité, nous n'avons décidé de rien. Ce n'était pas un projet. Nous sommes venus en vacances et nous avons aimé la région. Et puis, les choses se sont faites. Nous partions sur un projet d'agriculture et aujourd'hui, nous sommes maison d'hôtes. Voilà. Mais ce n'était pas un projet d'investissement. La première maison qui est dans l'OFI devait être notre pied-à-terre pour s'occuper de la palmeraie naissante. Et puis, bon, ben, les choses, le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard ou le destin.
Il n'y a jamais de hasard.
Il n'y a que des rendez-vous avec le destin.
Ça, qu'il ne faut pas rater.
Non, qu'il ne faut pas rater. Oui. Et puis aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons commencé avec Dal Wefi et ensuite Dal Hakim. Et nous avons beaucoup de plaisir à faire ce que nous faisons.
Pourquoi Temimoun ?
Alors, pourquoi Temimoun ? Temimoun, c'est encore une fois un rendez-vous avec le destin. Mon mari qui a beaucoup fait le Sud dans sa jeunesse et dans le cadre de son travail m'a toujours proposé et j'ai toujours refusé. Et cette année-là, c'est moi qui ai tout programmé. Et j'ai programmé Temimoun. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'étais dans mon salon et c'était la fin de l'année et Temimoun m'est venu en tête. J'ai appelé l'hôtel Gourara, j'ai réservé et puis nous sommes venus à Temimoun. Voilà.
Aujourd'hui, vous avez investi dans le tourisme.
Oui.
Et si on devait un petit peu revenir sur ce tourisme et son impact un petit peu sur la vie de tous les jours, son impact sur la ville, parce que vous avez vraiment décidé d'investir et de mettre en avant un petit peu la culture, on le voit à travers la décoration, les artisans, les personnes qui travaillent chez vous. Donc vous avez vraiment investi dans un projet de développement local, à savoir du développement de la ville de Temimoun.
Oui. Alors oui, quand on s'est retrouvé embarqué dans cette histoire, il était important pour nous d'essayer de donner la meilleure image de Temimoun d'abord et de notre pays. Donc oui, nous avons respecté l'architecture locale parce que Dal Hakim nous l'avons.
C'est très très important, ne pas dénaturer cette
absolument,
architecture.
Absolument.
C'est ce qui fait aussi la particularité de chaque région.
Absolument. Donc Dar el-Hakim, nous l'avons construite entièrement. Nous sommes partis du sable. Comme vous voyez, nous avons juste respecté les palmiers qui étaient là, qui étaient sur le terrain. Donc toute la construction s'est faite en fonction de ces palmiers. Et puis bon, pour la décoration, oui, il s'agissait pour nous de montrer que dans notre pays, on pouvait faire de jolies choses. Je pense que c'est joli, Dar el-Hakim.
C'est merveilleux. On passe des moments formidables.
Ouais. Ah ben merci. Et oui, donc on a exploité le palmier, même dans la construction. On a utilisé des tissus locaux. Nous avons fait travailler les artisans locaux, justement, pour montrer que l'on peut tout faire avec ce que nous avons dans notre pays. Et c'était ça le challenge.
Un pari gagnant.
Merci.
Si on devait un petit peu aller dans les détails, que faut-il faire aujourd'hui pour attirer un maximum de personnes ? On ne parle pas des touristes qui viennent de l'étranger. Mm-hmm. On parle pour attirer justement ces Algériens, pour les mettre en contact avec leur patrimoine, avec leur pays, pour qu'ils apprennent un petit peu à investir encore davantage en matière de tourisme chez eux.
Chez eux. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que l'on a constaté, la diaspora. La diaspora est de retour dans le pays. La diaspora veut découvrir le pays. Le modèle de vie ou de vacances de notre diaspora a changé. Ils viennent en Algérie, ils vont dans leur famille 2 jours, 3 jours, puis ils ramènent les parents s'ils sont encore vivants et ils viennent passer des vacances à travers tout le pays. Hein. Quand on discute avec eux, ils ont fait Gardaïa. Le sud attire beaucoup. Le sud attire beaucoup.
Et le nord est plus accessible.
Oui,
parce qu'il y a les routes,
oui,
et tout
oui,
ça.
Oui.
Le
oui.
sud, ça a toujours été le dépaysement.
Le dépaysement. Et puis, c'est
et
quand même.
Ça incarne l'aventure.
Oui, oui. Je pense que le sud, c'est un état d'esprit. Hein. Il faut venir, il faut avoir l'état d'esprit sud. Parce que vous êtes à Alger, vous êtes à Oran, vous n'êtes pas dépaysé.
À cette période, il y a une effervescence monstre.
Oui,
il n'y a qu'à entendre.
Voilà, on a les motards.
Exactement, les motards.
Avec une ambiance très sympathique. Voilà, donc la diaspora est là. Elle est présente, hein, la diaspora. Et elle est présente en force. Quand on discute avec eux, il y a des projets d'investissement. C'est très bien. Il faudrait que toutes les villes d'Algérie prennent cet essor et ça démarre parce que vraiment. Les choses ne sont pas faciles, rien n'est facile dans la vie, mais il faut s'accrocher, on y arrive, il faut le vouloir.
Est-ce que les Algériens, je veux dire les locaux, je veux dire les Algériens, les Algériens en général, est-ce qu'ils viennent souvent ? Est-ce qu'il y a une période propice ? C'est la période, mais en été par exemple, moi j'ai eu l'occasion de faire le tour.
Ouais.
Alors, en été, moi je trouve que c'est très très agréable.
Il fait
certes,
chaud quand même.
Il fait 50-60 degrés, mais on arrive quand même à s'adapter avec un minimum de confort.
Oui, bien sûr. Alors pour les locaux, je vais vous dire que peut-être que les locaux trouvent que c'est cher, qu'un séjour dans le sud est cher, mais c'est une idée erronée. Erroné, pas dans le sens budget, mais c'est pas parce qu'on vient dans le sud que tout doit être donné, non, parce que même pour l'investisseur, dans le sud tout est cher également.
Tout à fait.
Donc quand on demande une certaine catégorie de prestations, tout a un coût. Je vais vous dire par exemple le merdoum que vous avez mangé chez nous. Il a un coût du départ jusqu'à l'arrivée sur la table.
Tout à fait.
Il y a la préparation, il y a le fait nerdmo, justement. Il y a la personne qui le surveille pendant 3-4 heures. Et avec les locaux, ça coince un petit peu point de vue budget. Hein. C'est ce que nous avons constaté. Mais bien sûr, il y a les amoureux du désert et qui, à la limite, viennent en bivouac. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut oser, il faut venir.
Mais justement, en parlant de merdoum, c'est très important de garder ce cachet culinaire propre à la région.
Oui, ben c'est ce que nous faisons. Nous le proposons à chaque séjour, parce que les personnes qui viennent chez nous, nos hôtes, c'est des séjours de 4 jours, 4 nuits, 5 jours en général. Et donc le programme est fait, est établi en amont. Et nous proposons le meurdum quand on désire goûter le meurdum. De toutes les manières, nous ne faisons que de la cuisine locale.
Donc, et le avec des produits locaux.
Avec des produits locaux, avec des produits.
La salade est formidable.
Avec des produits bio.
Incroyable.
Oui. Non, nous avons de très bons produits. On mange très bien à Timimoun et on passe de très bons séjours à Timimoun.
Si on devait changer certaines choses pour améliorer encore davantage, justement.
Oui, il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer surtout. Ben, nous constatons avec plaisir que ces derniers temps, la ville est plus propre. Il y a un travail qui a été fait. Il y a un petit peu le côté administratif, mais bon, qu'il faudrait faciliter les choses aux personnes qui viennent investir. Il faut rassurer les locaux que nous ne voulons pas non plus aller vers un tourisme de masse, un tourisme qui les inquiète un petit peu pour certains, c'est-à-dire les histoires de mœurs et tout. Non, nous sommes dans le respect. Il faut rester dans le respect de leurs traditions, de leur façon de vivre, les rassurer que nous non plus, nous voulons garder Timimoun comme notre petit joyau. Et voilà, et de leur côté, ils devraient être peut-être un peu plus souples administrativement. Sinon, on va encore faire un appel aux agences de voyage qui ramènent de grands groupes, qu'ils doivent les cadrer, qu'il est scandaleux de laisser les détritus dans les dunes. On peut s'amuser dans les dunes, voilà. Mais quand on repart, on se doit tous de respecter l'environnement, parce que sinon, dans quelques années, ce ne sera pas bon, quoi. Voilà.
Un dernier mot, justement, pour tous ceux qui nous écoutent.
Oui. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on va leur dire, tentez, osez, et vous verrez que vous repartirez ravis. Il n'y a aucune raison à ce que des étrangers qui viennent des États-Unis, d'Australie, du Japon, repartent émerveillés, et que nous, locaux, on ne connaisse pas notre pays. Il faut venir.
Merci beaucoup.
Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Farida Messa, il a tout résumé, monsieur Manouar, c'est incroyable.
Incroyable, oui. J'ai beaucoup apprécié et puis je compte bien aller lui rendre visite. Là, j'aurais beaucoup à apprendre encore de cette personne. Parce qu'elle est là, elle est sur place, elle est professionnelle et puis elle a investi, donc elle sait de quoi elle parle. Et puis c'est sûr qu'elle a rencontré beaucoup de problèmes, mais c'est bien de parler aussi des problèmes. Elle avait fait des insinuations pour qu'on puisse justement apprendre aux autres comment les éviter et puis aller de l'avant. Donc voilà, c'est une feuille de route qu'elle a donnée. Mm-hmm. C'est une feuille de route. Parce que le tourisme, c'est d'abord, vous savez que. D'abord, nous avons ce grand pays, continent d'Iberg. On va devoir savoir comment planifier. Elle me ramène donc à une idée que j'avais proposée aux autorités, c'est que quand il y a eu l'installation des nouvelles wilayas, on avait dit qu'il y a certaines wilayas du sud qui devaient avoir un caractère spécifique de tourisme, comme certaines autres wilayas pour la production agricole. Mais par exemple, je parlerai de Bchar, Timimoun, Bni Abbès, Janet. Donc, elle devrait avoir une qualification avec une catégorie supérieure. Pour le tourisme saharien. Pourquoi ? D'abord pour qu'il y ait des cahiers des charges très spécifiques et très stricts en termes d'urbanisation. Donc, chaque région doit avoir un cahier des charges spécifique. Il n'est pas question d'avoir un cahier des charges élaboré par une institution centralisée au ministère pour toutes les des régions du sud. C'est pas la même chose. Donc quand on construit ce qu'on construit à Temimoun, on doit pas le construire même à Adrar qui est à 200 km. Mm-hmm. C'est pas là du tout la même chose. Il y a ça et puis aussi même point de vue production agricole, parce que le touriste quand il vient à Temimoun, il voudrait bien manger ce qui est produit à Temimoun. Mm-hmm. Et le touriste viendra pas manger des sandwichs de shawarma ou autre, ou bien des frites, des steaks frites. Mm-hmm. Donc il va falloir développer aussi
le côté culinaire de chaque région
avec les produits locaux. Le touriste serait ravi d'avoir une petite assiette pour lui dire c'est des dattes de Temimoun ou bien de la région de Karzaz.
Elles sont super belles, rondes, grandes, particulières.
Donc à quoi bon de lui donner les dattes de Biskra qu'il va pouvoir aller manger à Biskra? Mm-hmm. D'ailleurs, c'est ça, il va être attiré à partir à Biskra pour découvrir d'autres dates.
Donc respecter la nature, l'environnement, respecter les traditions.
Oui, la tenue. Mm-hmm. Quand je vais là-bas, je suis en train de voir, c'est-à-dire même, je ne parle pas que du personnel des hôtels ou mm-hmm. des infrastructures touristiques, c'est-à-dire même à l'extérieur, on doit beaucoup plus encourager les commerçants, les intervenants, même dans certaines administrations, à l'accueil, qu'il y ait des tenues locales. On doit être fier de ce qu'on a. On doit être fier.
On a justement cette diversité.
Cette diversité. Et puis que moi ou vous, ou tout le monde, même les touristes étrangers, quand ils voyagent, il va sentir qu'il est en train de voir beaucoup de belles choses différentes. Ça ne sert à rien d'unifier, même point de vue, elle a parlé de la propreté de la ville. Ben, voilà, quelque chose de positif, c'est bien. Parce que le tourisme, ce n'est pas seulement le bâtiment lui-même, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est pas seulement la prestation, mais c'est aussi l'environnement direct et indirect. Le touriste il va sortir voir la ville, voir les quartiers, il va faire de la route parce que pour aller à l'aéroport et puis pour aller aussi à une autre ville, à un autre sol, donc il va falloir travailler sur ça. Donc l'environnement, c'est très très important. Donc vous imaginez que même si Temimoun maintenant elle est propre, mais si on sort à 10 km, on trouve du plastique un peu partout sur enfui dans le sable, dans les dunes, au bord des routes, des sachets en plastique accrochés aux arbres, le touriste va peut-être apprécier ça d'une autre manière pour dire tiens, ça, on ne peut pas trouver ça ailleurs. On ne trouve qu'en Algérie, qu'ici, on trouve du plastique accroché aux arbres. Mais c'est là où il y a un travail à faire, en urbain, en suburbain, à l'extérieur, donc dans toute l'Algérie. Elle a parlé d'architecture.
C'est très important. Ça, c'est mon domaine. Ben oui.
C'est mon domaine. D'abord, on a une contrainte. Moi, je suis un acteur dans le domaine et on a des projets comme ça, même dans notre domaine hôtelier et dans le sud, justement. La première difficulté, c'est d'abord l'unification de ce cahier des charges et puis aussi du travail de génie civil. Vous savez que vous avez un organisme qui s'appelle le CTC, tout le monde le connaît. Et ici, par exemple, j'oserais proposer un projet avec des briques de terre, hein, ou de la pierre, ou des produits locaux dans chaque région, mon dossier au CTC risque de ne pas être accepté. Mm-hmm. Parce qu'il y a une réglementation parasismique par région qui dit qu'on doit respecter. Mm-hmm. Et on fait peu d'efforts. C'est-à-dire nous-mêmes et tout le monde, donc même les gens du contrôle, font peu d'efforts pour aller, même dans la recherche, dans les universités. On n'a pas encore fait des recherches pour dire que, tiens, on peut construire en pierre, faire du R+3, et avec des systèmes constructifs qui s'adaptent, hein, comme le faisaient
nos aïeux.
Mm-hmm. Ouais. On a des leçons à prendre, par exemple, pas seulement d'Algérie, du Yémen, où on a des immeubles qu'on appelait des gratte-ciel en ce moment-là, qui tiennent jusqu'à ce jour, donc après des milliers d'années. Donc il y a ça qui nous empêche un peu d'aller vers des matériaux locaux, durables. Mais il y a aussi l'esprit et la culture de certains opérateurs économiques. Avec, je ne peux pas les citer comme ça, mais il y a des projets qui sont en train de se construire parce que celui qui a apporté le projet, il a une idée qu'il a vue quelque part à l'étranger. Soit il est parti à l'étranger en tant que touriste, soit il est parti faire une ramada, soit il vient, il a une idée de, pour lui, un hôtel quand il n'y a pas une baie vitrée, quand il n'y a pas de la lucobande, quand il n'y a pas du grès céram, pour lui, il n'a pas construit quelque chose de bien. Et moi, j'ai vu ça même dans
certains.
Et non, j'ai vu ça, même certains touristes locaux, je dirais, ça leur plaît, ils disent « Ah, waouh, ça brille, c'est bien. Ah, du vert, moi j'aime bien. Les couleurs. » C'est pas du tout destiné.
Destiné à la région.
On doit s'adapter aux couleurs locales, aux matériaux locaux et surtout au climat. Parce que quand on fait des visites dans les Qsar, à quoi bon d'aller faire des visites? À quoi bon de prendre des étudiants chaque année pour leur faire visiter ça, pour qu'ils sentent la fraîcheur sans qu'il y ait de climatisation?
Exactement.
Qu'ils sentent de la ventilation naturelle, qu'ils voient, qu'ils touchent les murs épais, en terre, en tôle, en pierre. Et à la fin, après, quand on a un client qui vient, il dit, bon, mon terrain, moi, il est petit, donc je ne peux pas me permettre des murs de 60 cm, sinon ça va réduire la surface utile.
Et pourtant, c'est 60 cm. Mais,
oui, mais on doit faire quand même. Il y a un consensus.
Il va gagner beaucoup en matière d'économie d'énergie.
Oui, mais aussi les autorités, je dirais, locales surtout, doivent donner plus de facilitation pour avoir des terrains mieux situés, des terrains plus spacieux pour qu'on que des architectes puissent se faire plaisir et faire plaisir.
Laisser libre cours à leur imagination.
Libre cours à l'imagination, se permettre de faire des constructions sans béton, sans charpente métallique, des constructions avec des murs épais, 60, 70 cm, jusqu'à 80 cm dans certains cas, utiliser des matériaux locaux et faire tout ça et faire accepter. Donc c'est tout un travail de culture qu'il va falloir, sur lequel il va falloir investir. À partir d'abord, pas seulement des écoles d'architecture, mais de l'école elle-même, de l'école. On doit d'abord faire aimer tout ce qui est algérien aux Algériens.
Tout à fait.
C'est-à-dire le jeune, l'enfant, on doit lui faire aimer. Les parents doivent prendre leurs enfants, leur faire visiter des sites pareils, mais leur faire visiter d'une manière positive. Et leur dire, regardez comment c'est beau, comment c'est fait, regardez, on n'a pas besoin de climatiseur. On ne va pas leur dire, regardez, on ne doit pas utiliser ces mots.
Ils
étaient intelligents. Donc leur faire aimer ça pour que ces enfants, en grandissant, ils vont chercher à faire la même chose ou mieux. Voilà, ça c'est très important. Et puis arriver à l'école d'architecture aussi, donc à l'école, on doit axer certaines formations dans ce sens, pas aller justement dans les dessins sur tout ce qui est intelligence artificielle. Moi, je vois des soutenances où et les étudiants et leurs parents et même certains enseignants sont fiers que les dessins sont en couleur, il y a des 3D, du virtuel et de l'intelligence artificielle, alors que le toucher à la main. D'ailleurs moi en parenthèse, moi je plains tous ces étudiants qui arrivent à être des architectes mais qui n'ont jamais touché les matériaux, construit au moins une pierre sur une autre. Et
c'est important de passer par cette étape, rentrer en contact justement avec la matière.
Le contact, oui, la pratique, le manuel, il faut le toucher. Donc on apprécie différemment. Quand on dessine sur un ordinateur, ou bien quand on dessine à la main, ou bien quand on va carrément sur le chantier et on touche à la main. D'ailleurs, il y a Capter à Temimoun. Mais ça reste.
C'est une association.
Une association qui fait du beau travail. Mais il faudrait qu'il y ait des capteurs un peu partout.
Ils leur apprennent justement à fabriquer.
Il faudrait que les étudiants touchent.
Des
briques,
on tombe.
Il faudrait qu'ils s'assoient avec les vieux maçons, les anciens, qui ont.
On voit passer des étudiants qui viennent pour apprendre à travailler
produire
ce taube.
Produire la brique de taube, assister comment elle se fait. C'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire, le reste, ils vont l'apprendre à la maison.
Tout à fait. Quand ils vont descendre sur le terrain, ils vont pouvoir justement émerveiller.
Il faut les faire émerveiller.
C'est très, très important.
Il faudrait leur faire aimer. Il faudrait même qu'il y ait des spécialisations. Il faudrait qu'il y ait des encouragements. Il faudrait que ça soit un. C'est-à-dire, il faudrait rendre très important ce volet.
C'est très important. Il y a aussi l'aspect culinaire qui diffère d'une région à une autre. Oui. Et elle est avec nous, Chef Rim, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Soraya pour cette belle invitation.
Quelle bonne humeur. Waouh.
Chaque année.
Oui, avec le sourire, un plaisir de vous retrouver. Ça va, Rim?
Ça va. Très bien. Alors, un petit peu la tête sous l'eau avec les dernières préparatifs
du salon. Eureka,
on court un petit peu partout. Mais là, on est à J-1.
Le salon international de l'hôtellerie,
la restauration et la cafétéria. Et ça, collectivité locale aussi. Donc, il regroupe tous les secteurs professionnels dans l'hôtellerie. Et cette année, il va y avoir beaucoup de nouveautés.
On va pouvoir s'inspirer.
Oui, beaucoup
surtout
de
pour
nouveautés.
Les professionnels.
C'est ça. La nouveauté de cette année, c'est qu'on a fait appel à tous les jeunes qui sortent des écoles de formation professionnelle. professionnels ou ceux qui font des CAP en cuisine, ils peuvent venir avec leur CV et les déposer au niveau du salon Horeca.
C'est très bien. Vous allez leur permettre un petit peu de rentrer en contact avec les professionnels.
Exactement.
Pour trouver pourquoi pas.
Pourquoi pas, pour trouver un poste, pourquoi
c'est
pas.
C'est très bien.
Voilà, on leur souhaite
ça,
bonne
c'est
chance.
C'est pas mal.
Voilà, c'est une petite nouveauté cette année.
Excellente idée.
Voilà. On a, cette année, il y a eu beaucoup plus d'exposants. Mm-hmm. Donc, ça se développe. C'est un salon qui se développe au fil des années. Ça fait déjà très longtemps qu'on organise le Horeca. Et sans oublier aussi la petite partie de la zone des concours, où il va y avoir cette année 8 concours au lieu de 4. L'année dernière, il n'y avait que 4. Cette année, on a rajouté encore plus de concours. Ben oui, on a eu beaucoup de demandes. Les jeunes, aujourd'hui, ils aiment bien participer à des concours. C'est bien, il y a de l'interaction. En fait, je vois que d'année en année, on a beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de gens qui viennent vers nous et qui veulent participer. Et je trouve que c'est génial pour l'Algérie, ça se développe.
On a besoin de les mettre aussi en concurrence pour montrer un petit peu tout ce qu'ils savent faire.
C'est ça. Voilà.
On a envie de pousser justement ce jeune à aller jusqu'au bout.
Exactement. Cette année, il va y avoir le concours du couscous. Tout à l'heure, le monsieur, il parlait du couscous de Timimoun. Donc, on a fait le couscous régional.
Le Ta'am Salayer, c'est très, très bon.
Donc, on a 4 candidats qui vont préparer des couscous différents de chaque région. Donc, 4 régions, oui. Chacun va venir de sa région. On a un qui vient de Kabylie, de Blida, de Tlemcen, d'Alger. Et donc, ça va être la battle du meilleur couscous. Pour moi, ils sont tous bons.
Moi, ça m'encourage à aller.
Voilà, il faudra venir. Je vous invite à venir assister. C'est
Est-ce qu'on peut goûter après?
Bien sûr.
Ah ben,
c'est du 19 au 22 janvier au niveau de la SAFEX. Et je vous invite aussi, on a une journée ouverte qui est organisée en partenariat avec Air Algérie, où il va y avoir des dégustations et des cooking shows pendant toute la journée du 21.
Si vous avez envie de goûter, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire du 19 au 22. Rim Hamidesh, justement, il y a cette jeune femme qui a décidé aussi d'investir, Monsieur Manouar, du côté de Ghardaya. Et elle a choisi d'ouvrir une
table d'hôte.
Naïma Al-Khdari, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Naïma?
Ça va, alhamdoulilah, et vous?
Alors, un jour, vous avez décidé de vous installer à Ghardaya. Vous avez quitté Alger. Vous vous êtes installé à Ghardaya. Ça fait une quinzaine d'années, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et vous avez ouvert une table d'hôte pour faire découvrir justement cet art culinaire algérien. Parce qu'il y a de l'algérois, il y a les spécialités de Ghardaya et vous essayez aussi de faire goûter à tout ce beau monde, tous ceux qui passent par Ghardaya, à la cuisine algérienne.
Je fais table d'hôte et j'invite des gens à venir découvrir nos différentes spécialités, dont l'algérois bien sûr. Du moment que je vis à Ghardaya, on fait des échanges avec des mousabites, avec les chaimbi, voilà, et ils aiment ça.
Et c'est tant mieux. Ça, c'est magnifique. Naïma, pourquoi vous avez choisi Ghardaya?
Ben, écoutez, Ghardaya, je suis venue en vacances, c'était en 2010, et ça m'a tellement plu que juste après quelques mois, je me suis installée. Je me suis carrément installée et j'ai pu découvrir la vallée du Mzab, l'art culinaire de Ghardaya, ses formidables habitants. Et le climat aussi, c'est un très bon climat, quoique il y a des grandes chaleurs en été, mais j'ai pu supporter ce merveilleux climat, ces belles palmeraies qui se trouvent à Benizgen.
Il y a tellement de choses à voir dans cette région. Il y a Ghardaya, il y a Benizgen, il y a l'Ataf, il y a aussi Gerara, il y a le Mnéa. C'est une autre wilaya maintenant, le Mnéa, qui s'est développée, mais d'une façon magistrale, c'est pas loin, 300 km. Mais quand on est justement dans cette région, les distances sont dérisoires. Il y a aussi Sibseb,
oui,
que j'adore.
Il y a Mansoura aussi, il y a Hassi Lefhel. C'est des endroits magnifiques.
À découvrir.
Et on invite à chaque fois, on essaie d'inviter des gens à venir découvrir Ghardaya et ses environs.
Et pourquoi justement vous avez décidé d'investir un petit peu dans le tourisme? Qu'est-ce qui vous a attiré?
J'adore cuisiner, j'aime mettre en valeur nos traditions. Voilà.
Et est-ce que c'est important justement de mettre en avant cet art culinaire justement pour développer le tourisme dans la région?
Oui, absolument. Quand on vient dans une région, on a envie de découvrir son art culinaire, ses traditions, son patrimoine.
C'est vrai, quand on va quelque part, on veut découvrir la région, on veut découvrir sa population, on veut découvrir les sites, les traditions.
Tout à fait.
Et on veut manger.
On veut manger.
C'est important.
Surtout, manger, bien manger, surtout.
Et est-ce que les recettes sont telles quelles? Je veux dire, est-ce que vous respectez à la lettre ces recettes? Vous essayez un petit peu d'apporter votre touche?
Oui, je reste dans
le traditionnel.
Dans le traditionnel.
Pur et dur.
Pur et dur, typique. Mm-hmm. Voilà, et c'est rare quand j'essaye de mettre...
Votre touche.
Ma touche, voilà, ma touche un peu spéciale. Mm-hmm. Sinon, je reste dans le traditionnel.
On respecte les traditions, on respecte les normes pour faire découvrir en bonne et due forme justement cet art.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que c'est important justement de préserver ces recettes telles quelles?
Eh bien oui, écoutez, il le faut bien. Hein. Oui, ça fait partie de nous, les recettes de nos grands-mères. On y tient sur nos traditions.
Donc on veut faire découvrir nos recettes, les vraies.
Voilà, tout à fait.
Et est-ce que les gens apprécient?
Oui, beaucoup même. Beaucoup
il
même.
Paraît que vous êtes un cordon bleu.
Eh ben, il faut goûter, hein. il faut venir.
C'est important justement de passer par la cuisine.
Oui, c'est très important parce qu'on reçoit des étrangers, ils aiment découvrir nos plats. Oui, en plus, on est fiers de présenter notre savoir-faire, nos plats algériens, nos plats algérois, comme nos plats aussi sahraoui.
Donc vous avez appris, parce que vous êtes la spécialiste des plats algérois. Mais aujourd'hui, étant donné que vous avez investi justement dans ce domaine, vous avez décidé un petit peu d'apprendre à cuisiner pratiquement tous les plats d'Algérie.
Voilà, j'essaye d'apprendre. J'ai appris pas mal de plats ici à Gardaïa. Mm-hmm. Et j'essaye de découvrir aussi d'autres régions comme le Mléa, comme Hassil Fhel, Mansoura, Daya Ben Dahoua. Mm-hmm. Parce que écoutez, chaque commune ou chaque région
a une spécialité.
A sa spécialité.
D'accord.
Voilà.
Et ce qui est incroyable, Naïma, c'est qu'on a mangé 36 000 couscous. Et pourtant, aucun couscous ne ressemble à l'autre.
Exactement. Aucun couscous ne ressemble à l'autre. Mm-hmm. Chacune a sa touche. Il y en a qui le préparent en sauce rouge, par exemple, en sauce blanche. Il le prépare avec des dattes, avec le sirop de dattes.
Le sirop de dattes, c'est rob, c'est ça?
Oui, voilà, c'est rob. Mm-hmm. Et il y en a qui le préparent aussi avec le raisin sec, avec la viande du chameau, l'agneau, le veau. Après, ça dépend des...
Et on travaille avec les produits locaux?
Oui, avec les produits locaux, ils préparent eux-mêmes leurs épices et c'est un délice, hein. C'est très bon.
Donc c'est une chaîne finalement. Vous essayez un petit peu de mettre en avant votre savoir-faire et vous avez créé une chaîne, donc c'est tout le monde qui travaille pour qu'à la fin, ce plat va être présenté en bonne et due forme à celui ou celle qui va l'apprécier.
Qui va l'apprécier, bien sûr.
Et ça vous plaît?
Oui, ça me plaît beaucoup et je suis une amoureuse de la cuisine algérienne. Voilà.
Service public.
Service public.
Service public.
Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
Naïma Al-Khdadi qui fait tout justement pour préserver cet art culinaire. Rim, chef Rim, quel plaisir justement d'avoir ces gens qui essayent un petit peu de préserver ce patrimoine.
C'est clair, c'est important. Ouais, c'est important. Et puis, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, au niveau du Horeca, on a consacré une zone des concours, justement pour développer, pour aider les jeunes venir nous faire découvrir leur spécialité de leur région dans le couscous régional. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont nous présenter cette année, nos candidats. Puis, on a aussi des chefs algériens qui sont installés à l'étranger. Ils vont venir pour assister les concours, pour juger. Mm-hmm. On a Karim Boukhari. Soraya avait interviewé l'année dernière.
J'ai eu l'occasion de le rencontrer
Il arrive aujourd'hui. Il est installé à Lyon. Il est installé à Lyon. Il a ouvert le premier restaurant halal gastronomique à Lyon. Et lui aussi, il a développé le couscous sur plusieurs façons. En fait, il a vraiment changé le dressage. Enfin, il y a eu plein de fusions sur plein de plats algériens avec de. En fait, il a fait une fusion occidentale avec les quelques repas plats algériens. Donc, il sera avec nous pendant le salon. Il sera juge. Il arrive aujourd'hui à 14h30. On lui souhaite bon voyage. On a aussi pour le concours du chocolat, on a invité quelques maisons qui sont basées à Alger, comme la maison Khalef, Ka Chocolaterie, Farah Célébration, Chocobis. Donc, ils vont être là pour réaliser des coffrets chocolat ou des bonbons chocolat. On ne sait pas. Ça, c'est une surprise, au fait. Et on a un juge pour le fondant chocolat.
Et on va pouvoir goûter à tout.
Bien sûr que, Soraya, tu vas venir. Il faudra déguster avec
nous. Je parle
aussi
des auditeurs.
Voilà, il faudra faire, le tour.
On va jeûner demain.
Il faut pas manger ce soir.
Donc, le concours du chocolat, c'est le 22. Et on a le modérateur du concours au chocolat, ça va être Hicham Lahrach, un maître chocolatier qui vient aussi de l'étranger. Donc, moi, je vais te donner un conseil, Soraya. Moi, je sais que tu es gourmande. Essaye de venir le premier jour pour le couscous à 13h.
Tous les jours, apparemment.
Eh bien, viens tous les jours. Voilà. Et surtout le chocolat. Voilà.
Ça, c'est pas mal. Ça va permettre justement à cette nouvelle génération de rentrer en contact avec les maîtres.
C'est ça. Justement, ils vont discuter, ils vont apporter du conseil, encourager, leur donner de la force et puis les aider aussi à développer eux aussi. Il faudra bien développer ce secteur. Et,
est-ce qu'ils vont dévoiler quelques secrets? Quelques secrets pour cette nouvelle génération?
Peut-être.
C'est bien de leur donner justement cette possibilité.
On va voir.
On va leur dire.
On va leur dire.
Mais justement, pour assister, Rim, qu'il faut dire que c'est un salon réservé aux professionnels.
C'est ça.
Vous allez faire une exception.
Oui, bien sûr. Il faudra juste s'inscrire. www.horecaexpodz.com.
Ça va être à la SAFEX.
Voilà, à la SAFEX. Comme ça, ils auront accès à leur badge. Ils retirent leur badge avant d'arriver. Et puis, ils pourront visiter le salon. Moi, j'invite tous les professionnels, tout le secteur professionnel, street food, hôtellerie, les habits, stotmar, les habits, hell, matam, hôtel, fast food, traiteur. Donc, déjà, il y a le salon au Ricard, il y a comme l'équipement.
Tout à fait.
C'est ce qui est important. C'est très important. Parce que
en plus, c'est un équipement qui est fabriqué en Algérie.
Qui est fabriqué en Algérie.
C'est très important.
On a plusieurs marques fabriquées en Algérie. Donc, ils seront en présence, ils seront à l'écoute. Et parfois même, on a des exposants, ils font des réductions. Donc, justement, pour vendre du matériel,
profiter
pour vendre pendant le salon. Et moi, je vois des gens, quand ils veulent ouvrir un commerce, ils me disent oui,
c'est génial. Donc,
de la petite cuillère jusqu'à votre panneau de signalisation, vous allez le trouver là-bas.
C'est des produits qui sont fabriqués en Algérie, donc on ne risque pas de tomber dans la rupture.
En plus, c'est pour développer des nouveaux concepts.
Moi, exactement.
Je souhaiterais qu'il y ait des concepts nouveaux parce qu'on peut développer. Donc on essaie de développer dans beaucoup de secteurs, mais dans le tourisme, on doit aussi développer. Par exemple, moi, le couscous. Ça fait, en tant qu'association des consommateurs, on a appelé donc, des opérateurs, même des start-up dans le domaine, pour développer des chaînes de fast-food avec du couscous.
C'est pas mal.
Pourquoi pas?
Vous imaginez si on a, si on a de partout en Algérie, voilà, une ou deux entreprises qui investissent dans ce domaine, où je passe maintenant, à midi je sors, j'achète une barquette de couscous.
Voilà. J'ai mangé une barquette
et
de couscous,
et j'ai devant moi plusieurs bacs de
graines,
de sauce pour choisir ce que je veux aujourd'hui. Dans deux jours, je reviendrai à un autre couscous avec une autre sauce et ainsi de suite. Oui. Donc, et ça va d'abord améliorer notre santé. On va manger moins.
Puis l'Algérie, elle est riche en termes de graines. On a des centaines.
On va manger moins de pain, moins de fritures, moins de viande, moins de gras, moins de sucre.
Cette farine blanche.
Et revenir à cet aliment,
à nos racines.
À ce plat qui donnait de la santé. Non, qui donnait de la santé à nos aïeux.
C'est clair.
Qui mangeait tous les jours du couscous.
Ouais, c'est des recettes ancestrales qui se démodent jamais.
Depuis l'Antiquité.
Et en plus, faire développer donc, le couscous, c'est un patrimoine qu'on a en Algérie. J'allais dire algérien, mais il est nord-africain. Mais en Algérie, on doit le développer parce que notre pays est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus diversifié. Mmh, c'est donc clair. C'est chez nous que le couscous devrait se développer par ailleurs. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est quand je pose des questions, je dis où le couscous est le plus consommé.
C'est en Algérie.
Non. C'est dans un pays européen dont je ne citerai pas le nom. Absolument.
Européen.
Eh ben oui.
Ils mangent le couscous tous les jours.
Ils mangent plus de couscous qu'en Algérie, qu'en Libye, qu'en Tunisie.
Ah ben très bien. On va le manger tous les jours.
Tous les jours.
Voilà. On prend notre couscous.
Exactement. Donc, Monsieur Manouar, pour investir et ne pas dénaturer un petit peu cette nature qu'on trouve ailleurs, un petit peu partout à travers l'Algérie, notamment au sud. Si on devait résumer un petit peu la situation, vous qui êtes un professionnel, que ce soit du côté, on va dire, la casquette de l'association MN pour les consommateurs et l'architecte.
Oui, d'accord. D'abord, il faudrait pas axer l'investissement que vers des hôtels et des grands hôtels à tant de chambres. Donc le tourisme local, ou bien même le touriste qui vient de l'étranger, aime bien cette immersion dans la
cette
société locale.
Cette particularité, cette simplicité.
Donc les maisons d'hôtes, c'est une hyper bonne solution pour nos villes sahariennes. Parce que c'est ce qui permet de rester dans le rez-de-chaussée et le R+1, c'est ce qui permet de recevoir un petit nombre de touristes et de ne pas aller vers le tourisme de masse. Parce que quand on fait un hôtel de 120 lits ou de 160 lits dans une zone saharienne, c'est 3 ou 4 bus de touristes qui arrivent et qui vont s'imposer et imposer leur diktat aux locaux.
Donc c'est bien d'avoir des petites maisons d'hôtes.
C'est des petites maisons d'hôtes pour recevoir de 15 à 20 personnes à la fois, les prendre en charge convenablement, à longueur d'année, donc nous avons quand même 8 mois. Et d'ailleurs, moi je pense avec des amis comme ça, pour faire développer le tourisme saharien, même pendant l'été, il y a de la demande, il y a certaines populations dans certains pays du Nord qui cherchent à avoir chaud.
Je ne dépasse pas Boussa Adam, mais je vais passer une semaine à Boussa Adam. Et ça se passe super bien, il ne fait pas chaud.
Je jure.
Même s'il fait 45 degrés à l'extérieur, à l'intérieur, il fait beau.
Les gens ont la perception de l'image, de ce que disent les gens. Attention, moi, je pars au Sahara même quand il fait chaud et je suis là-bas en train de circuler sous 46-48 degrés. C'est une chaleur que je ressens au fond de moi que ça me fait du bien parce qu'il n'y a pas d'humidité. Et puis,
c'est un climat sec.
Quand on voudrait faire du tourisme de découverte, mais au moins, on
il faut le vivre
une fois dans
vivre
sa vie
l'environnement
et
de...
vivre cette chaleur parce qu'à la fin, la nuit, on dort au frais. Et puis, c'est bien d'aller connaître, voir ce que vivent ces populations, ce que vivent.
Découvrir encore davantage ces régions
faisant
tout au long de l'année.
Donc, c'est un mode de tourisme qu'il va falloir développer plus tard. Pourquoi ? Pour que ces gens qui vont investir auront la certitude d'avoir de la clientèle et de travailler plus que les 8 mois. Donc c'est très important.
Pour travailler toute l'année.
Toute l'année, absolument.
Pour rendre justement ce lieu rentable.
La même chose qu'on va devoir faire pour le tourisme balnéaire, parce qu'il ne travaille que pendant les 2 mois d'été, alors qu'on peut développer des
Généralement, on commence au mois de mai, donc on a juin, juillet, août, septembre,
on
jusqu'à octobre.
Soleil
on a
l'année.
Du soleil toute l'année.
Vous imaginez si les hôtels d'Al-Bahar, Fihom Al-Hammam,
Fihom Al-Gdar. Les stations balnéaires, on manque de stars.
On arrive à la fin de l'émission, Rim, alors, si on devait
moi,
un petit peu rappeler.
Voilà, moi j'invite nos chers auditeurs à venir visiter nos salons, le salon Horeca. Faudra s'inscrire www.horecaexpo.dz.com. Venez nous rendre visite, checkez votre ticket et marhaba bikoum, on vous attend. Et je vous attends surtout au niveau de la zone des concours et aussi
pour encourager
surtout. Donc il faut venir encourager la jeune génération, les étoiles montantes dans l'art culinaire algérien.
Très bien, allez, Monsieur Manouar, en 30 secondes, un dernier mot.
Bah, écoutez, nous avons un grand pays, on doit le connaître d'abord. Le faire connaître, c'est le faire connaître avec ses vraies valeurs, les valeurs humaines, les valeurs de ce qu'on a comme potentiel touristique, potentiel architectural, l'environnement et même le climat. Notre climat est aussi un potentiel qui change d'une région à une autre, qui change d'une saison à une autre. On doit quand même faire profiter nos populations et faire profiter notre économie à travers le bon marketing et la bonne communication à l'étranger. J'appelle encore une 2 secondes nos représentants à l'étranger, nos ambassades, à faire aussi du bon marketing qu'il faut. Il faudrait qu'il y ait des professionnels du tourisme qui investissent donc ces administrations à l'étranger pour attirer le bon touriste. Parce qu'on doit choisir le bon touriste.
Exact.
Le touriste,
pas dans le tourisme
le
de
touriste
masse.
Qui paye le prix, qui paye le prix de qui paie le prix et qui ne nuit pas à notre environnement, qui ne nuit pas à notre société, à notre tradition, à notre culture et surtout à la quiétude des populations locales parce qu'elles ont le droit de vivre, de survivre et de continuer à vivre comme ils ont, comme ont vécu leurs parents et grands-parents.
Donc il faut sublimer cette destination, la destination Algérie. Merci beaucoup, Lim.
Bah, merci. Hamidef, merci. Je vous attends du 19 au 22 janvier.
Donc, à partir de demain.
À partir de demain. J-1.
Et du bon chocolat.
Yalla.
Merci, monsieur Manouar. Voilà, les amis, on arrive à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain, Blahine Arbi, même heure, même station, à partir de 10h sur Alger Chaîne 3, dans Service Public. Au revoir.